Premier sujet ce matin qui m'intéresse comme consommateur, là, j'ai vu que les joueurs indépendants dans le secteur des télécommunications étaient furieux contre une décision du CRTC. Alors, qui sont les joueurs et sont en maudit à cause de quoi?
Mais au Québec, c'est un joueur comme E-Box, là, Electronic Box. Pour ceux qui sont habitués à magasiner depuis deux décennies les services Internet, ben, ils voient qu'il y a des petits joueurs indépendants qui font moins de pubs, qui ont moins de visibilité que les grands, mais qui existent et qui offrent des services Internet. Et là, on nous dit, écoutez, en 2019, le CRTC a conclu, dans la décision 288, que on devrait avoir des meilleurs coûts pour les petits fournisseurs. Tu sais, si tu vends en gros petit fournisseur, le droit d'utiliser tes installations, le coût de revient si tu vas en comptabilité, là, faudrait qu'il soit mieux fait pour qu'il soit établi à un prix qui a plus de sens. Et là, au CRTC, on vient renverser cette décision-là. Et donc, les gros joueurs retrouvent une position dominante, retrouvent le droit, disons, de avoir des prix un peu plus élevés. Et là, si tu es un petit joueur, tu regardes TELUS, tu regardes Bell, tu regardes Vidéotron et compagnie, tu as tout le temps le double discours. C'est que d'un côté, tu as les grands joueurs qui, eux, investissent des milliards dans les infrastructures, qui disent « nos coûts de revient sont élevés ». Puis les petits qui lèvent le drapeau au nom de la concurrence en disant « vous devez offrir aux petits la chance d'être concurrentiel dans ce marché-là ». Et c'est ça l'enjeu. Et quand je regarde les résultats de Bell, de Vidéotron ou de TELUS, c'est sûr, Paul, que ça génère chacun des centaines de millions par département, par les services filaires au mobile. Et donc, c'est quoi la limite? Parce que là, il y a deux discours lobbyistes. D'un côté, il y en a qui vont dire « ouais, mais si on vend à rabais, entre guillemets, nos services aux petits fournisseurs, ben il y a moins d'argent pour nos services à nous et donc ça offre des moins bonnes infrastructures. » Les petits fournisseurs de l'autre bord disent « ouais, mais s'il n'y a pas d'offres concurrentielles importantes en volume, les gros joueurs vont se partager un marché oligopole, si tu veux. »
Mais c'est parce qu'on trouve, à la base, qu'on paye déjà cher pour les services.
Oui, puis au Canada, il y a une patente. C'est, si tu regardes, par exemple, je ne sais pas moi, Vidéotron, tu te dis « OK, on génère en une année, en 2020, 4,3 milliards de revenus, 790 millions de bénéfices avant impôts. » Mais est-ce que il y a un coût plus important au Canada de développer des infrastructures, de les remplacer à cause de la distance et de la faible densité de population? Ça, on doit le donner aux grandes compagnies. T'sais, si tu es en Europe, par exemple, à Paris, je comprends que quand tu as une infrastructure, tu couvres plus de territoire qu'au Québec, mais tu es dans des clochers d'église, puis garde belle présentement, tu regardes la fibre optique qui passe dans les rues de Montréal pour être capable d'aller jusqu'à la maison. Le coût est extrêmement important et la durée de vie n'est pas de 100 ans non plus. Alors, combien de temps faut que tu changes ça? Donc, il y a un coût important. Et ça, c'est vrai. La question, c'est quel est le juste milieu?
En comptabilité, le juste prix.
Le juste prix, parce qu'en comptabilité, là, le coût de revient, surtout pour des services comme ça, c'est un grand enjeu. On en parle chez Hydro-Québec, on en parle chez les services de télécommunications. Comment définir le coût réel d'un consommateur? T'sais, amortir des coûts fixes par consommateur, par utilisation. Quelle est la part de profit qui est logique et acceptable? Je pense que le CRTC se retrouve bien petit dans ses culottes par rapport aux grands des télécommunications, pour vrai, sur sa capacité d'avoir la vraie information comptable. Pour avoir été dans ce domaine-là longtemps, là, ouais, de vérifier les états financiers de compagnie, tu sais, des coûts de revient puis des coûts affectés, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'on peut être créatif ou...
Ben, c'est parce que je vais donner un exemple. Si moi, je dépense 10 000 piastres sur trois projets, quelle est l'allocation du 10 000 pour chacun des projets et quelle est l'allocation du coût par client?
T'as peur de faire ça un peu, je pense. Hein?
Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est parce que là tu parles de...
Non, mais c'est de répartir dans les endroits...
Les centres de profit.
Les centres de profit, entre autres.
Mais là, je te parle vraiment de dire, tu as une dépense de coût fixe, là, pas un coût variable par client. Tu installes une infrastructure. Quel est le coût attribué à chaque client? Ben là, ça dépend la durée de vie utile, comment tu l'évalues, à quel moment tu vas ajouter des coûts. C'est extrêmement compliqué. Donc, je dois donner ça aux grands télécoms. Mmh. On peut noyer beaucoup d'affaires dans des chiffres en amortissement comptable.
OK. Un petit mot sur la façon dont on va consommer, là, parce qu'on entre dans le déconfinement, puis fin du couvre-feu, puis les terrasses, puis on reprend un peu nos activités. Qu'est-ce que tu entends comme, disons... peut-être changement d'habitude chez les consommateurs.
Mais la boîte noire du consommateur est compliquée parce que là, il y a beaucoup d'incohérences au niveau de, par exemple, On dit qu'on a épargné plus, c'est vrai. Mais là, une fois qu'on a déconfiné, puis tu me ramènes dans un mode hybride, le centre-ville de Montréal va avoir l'air de quoi? Je te donne l'exemple. Tu es un restaurateur. Avant, tu avais une clientèle qui venait au restaurant, peut-être le jour de la paye, le lundi, peu importe, et il y avait une espèce de cycle de dépenses. Mais là, ton consommateur, s'il passe 2-3 jours à maison, est-ce qu'il va allouer son dollar restaurant à la foire alimentaire le midi, plus souvent, étant donné qu'il mange plus à la maison, ou va-t-il quitter plus tôt puis redevenir dans son cocooning et aller faire ses 5 à 7 avec ses voisins? C'est ça la question. Est-ce que la dépense va être à la même place? Même chose avec le secteur immobilier pour les investisseurs présentement. Tu te dis, au centre-ville, avant j'avais une grosse clientèle qui migrait au centre-ville tous les jours, des milliers de personnes. Maintenant, si on dit qu'il y a une clientèle hybride, ça veut dire que le centre-ville va devoir se rééquiper de citoyens qui vont vivre là. Les tours à bureaux vont peut-être devoir devenir hybrides avec du résidentiel. Et donc, la consommation qui venait de la personne de Chambly qui venait chaque jour à Montréal va peut-être être inférieure. Donc, on ne sait pas encore comment ça va se redéfinir. Il y aurait plein de sujets comme ça, mais je t'en parlerai une autre
fois. Bien, c'est sûr. Mais tu sais, qui peut deviner ça avec précision? Quels seront les comportements? Je ne pense pas qu'on va revenir au modèle à 100% avant pandémie.
Mais juste les agences de voyage se demandent, est-ce que les gens vont voyager comme avant ou ils vont avoir réalisé à quel point ils sont bien entre quatre murs à la maison?
Je pense que les gens vont se remettre à voyager quand ça sera pas trop compliqué, quand tu vas pouvoir te déplacer sans au retour être en quarantaine, quand les pays d'accueil, tu comprends? Moi, je connais plein de gens qui attendent ça, là, qui font une croix pour l'été parce qu'ils se disent les prix sont élevés, il n'y a pas assez de vols, puis c'est compliqué, qui souhaitent que l'an prochain, que l'été prochain, ben là au moins, ou le printemps prochain, ben que ça soit un peu plus agréable.
Et que ce soit sécuritaire, même chose pour l'immobilier puis les matériaux de construction, quand ça va être moins cher pour revenir à la normale parce que les gens vont dépenser ailleurs.
Merci, monsieur. 7h23. Allons voir la situation sur la 40.